Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Académie. Cette émission, une fois n'est pas coutume, ne se déroule pas dans notre studio, mais dans l'une des salles où se tiennent généralement les séances des académies. Et dans cette belle salle, nous sommes accueillis aujourd'hui par le chancelier de l'Institut de France, monsieur Gabriel de Breuil. Et je voudrais, en l'accueillant, le remercier d'avoir choisi ce cadre. Monsieur de Breuil, bonjour.
Bonjour, je suis heureux de me retrouver à la fois à Canal Académie et dans cette salle.
Vous venez souvent dans cette salle, je crois.
C'est la salle de l'Académie française, qui se réunit sous le portrait du grand cardinal, qui est derrière. Mais c'est aussi la salle où se réunit l'Académie des sciences morales et politiques.
À laquelle vous appartenez.
À laquelle j'appartiens, et donc le lundi, c'est les sciences morales, et le jeudi, c'est l'Académie française.
Merci en tout cas de nous avoir accueillis dans cette salle. Nous allons aujourd'hui évoquer avec vous les grands prix de l'Institut de France qui seront remis solennellement cet après-midi sous la coupole de l'Institut, une cérémonie que vous allez présider bien entendu.
Alors c'est une grande cérémonie en effet pour la quatrième année consécutive et chaque année elle prend en enracinement et en développement, en rayonnement, je crois. Cette année, il y aura une innovation, c'est que des documents audiovisuels vont présenter chacun des lauréats dans leur laboratoire, dans leur lieu de travail ou de création, et donc ça sera plus vivant, je crois.
Certainement. Monsieur le chancelier, l'Institut de France distribue de nombreux prix parce qu'il y a de nombreuses fondations. Cela s'inscrit-il dans un mécénat de longue date, d'une longue tradition, ou est-ce récent ?
C'est une tradition dès l'origine, dès la fondation des académies. Elles ont toujours lancé des concours, récompensé des œuvres, des écrivains, des artistes, attribué des prix. Cela fait partie de la mission des académies. Puis, dès l'origine, il y a eu une vocation plus large qui était de distribuer aussi des secours, on appelait ça autrefois, c'est-à-dire à des personnes méritantes que l'on souhaitait aider. Mais enfin, ce sont des traditions qui continuent de nos jours, évidemment, des prix littéraires, artistiques, nous en décernons des quantités à des livres, à des créateurs, des artistes. Après sont venus des fondateurs qui ont souhaité fonder à l'Institut de France des collections et des châteaux-musées. C'est au XIXe siècle que cela s'est produit. Il en est résulté un patrimoine très important, architectural, artistique, scientifique parfois, et que nous conservons encore de nos jours, et qui est extrêmement important, avec, je crois, la faveur du public qui vient visiter ces châteaux-musées. Et alors, au XXe siècle, et depuis une époque récente, sont venus s'ajouter à ces activités traditionnelles des fondations d'un genre nouveau, qui sont des fondations mobilières, c'est-à-dire des patrimoines importants, patrimoines de famille ou d'entreprise, qui viennent s'abriter à l'Institut de France pour donner lieu à une activité menée en commun entre les fondateurs et l'Institut de France, avec un système de conseil qui est toujours à parité entre les fondateurs et les membres de l'Institut, qui apportent leur expertise, leur connaissance, leur prestige aussi, à l'action de la Fondation, tout ceci se déroulant sous la présidence du chancelier de l'Institut de France. Et ce sont ces grandes fondations que nous honorons aujourd'hui dans cette séance solennelle.
Alors on peut en citer, je crois, au moins 5 grandes fondations, rapidement pour dire leur nom. On peut commencer par la Fondation Mérieux.
Oui, la Fondation Rodolphe et Christophe Mérieux, qui est peut-être une des plus grandes fondations existante en France même, et qui a une origine émouvante, disons, étant donné le destin de la famille Mérieux. Et c'est une fondation qui distribue, pour la première fois cette année, un grand prix, très grand prix, qui porte le nom de Christophe Mérieux.
Il y a aussi la fondation Simone et Cino del Duca, qui étaient, je crois, des éditeurs et des mécènes, tous les deux.
C'est également une très grande fondation qui a été fondée à l'origine par Madame del Duca, à la suite du décès de son mari, grand éditeur de journaux, de presse, de livres, et grand mécène, elle aussi grand mécène, membre correspondant de l'Institut de France à l'Académie des Beaux-Arts. Et au décès de Madame del Duca, elle a souhaité faire de l'Institut de France son légataire universel. Et donc l'Institut a recueilli non seulement son patrimoine, mais sa fondation, qui est devenue une fondation abritée à l'Institut de France. Très grande fondation.
Très grande fondation. Autre fondation, le Foulot de la Lande.
Également. Alors, avec la caractéristique que les fondateurs, monsieur et madame Le Foulon de la Lande, sont bien vivants, bien présents, font vivre leur fondation avec des choix dans les orientations de la fondation et dans les choix des lauréats. Et donc, c'est par une collaboration magnifique que vit la fondation Le Foulon de la Lande, très importante et qui décerne un très grand prix.
Il y a aussi la fondation Énergie.
Alors, la fondation Énergie, là encore, le fondateur est là. C'est le fondateur d'Énergie, M. Baudecroux, qui a souhaité abriter à l'Institut de France, par une démarche personnelle, qui n'est pas une démarche d'entreprise, abriter une fondation pour la recherche scientifique, médicale. C'est une démarche tout à fait personnelle.
Et la dernière que l'on peut citer, c'est une très grande fondation, Louis D, qui distribue également des prix importants.
Alors la fondation Louis D a cette caractéristique tout à fait touchante, que les fondateurs sont là, mais par un souci de discrétion, ils n'ont pas souhaité donner leur nom à leur fondation. Et donc, c'est la fondation Louis D, D avec un point. Et c'est une très grande fondation qui décerne chaque année deux très grands prix, les plus importants distribués par l'Institut de France, et je crois les deux prix les plus importants distribués en France, dont le montant s'apparente au montant des prix les plus importants dans le monde.
Oui, peut-on donner une idée des montants? Certains prix vont 100 000 euros, d'autres montent beaucoup plus.
Disons que les grands prix sont ceux qui dépassent quelques centaines de milliers d'euros. Et les deux prix de la Fondation Louis D, on peut citer le chiffre parce qu'il est tout à fait honorable et prestigieux, chacun des deux prix sont d'un montant de 750 000 euros chaque année. Et je dois vous dire que lorsque un laboratoire scientifique ou lorsqu'une organisation culturelle, a fortiori lorsqu'un créateur, reçoit un prix qu'on lui annonce, qu'il a reçu un prix de 750 000 euros, la vie change.
Ça encourage la recherche, en tout cas.
Pour le laboratoire, pour tous ceux qui participent au laboratoire, pour le chercheur, et aussi pour l'équipe, par exemple, culturelle ou humanitaire qui reçoit ce prix.
Parce qu'il faut dire que ces grands prix, contrairement à certains grands prix internationaux, ne sont pas seulement des récompenses, ils sont aussi des encouragements à investir dans la recherche pour l'avenir.
C'est la caractéristique des grands prix de l'Institut de France. Contrairement à d'autres, ce ne sont pas des récompenses, ce ne sont pas des prix qui couronnent une carrière accomplie, une œuvre déjà faite, ce sont des prix qui encouragent, qui donnent le pouvoir de faire, de continuer, d'innover, qui répondent, qui essayent de combler un besoin social, par exemple, ou humanitaire, qui n'est pas encore, auquel il n'a pas encore été répondu. Et on sait que dans notre société, qui est tout de même assez bien organisée sur le plan de la couverture des risques sociaux, ceux qui ne sont pas pris en charge sont les plus criants. Et une des missions des fondations de l'Institut de France, c'est de tenter d'innover dans ces domaines et d'apporter des solutions neuves.
Justement, Monsieur le Chancelier, quels sont les domaines qui sont couverts par les fondations, l'ensemble des fondations? Est-ce plutôt scientifique, de la recherche, humanitaire?
Alors, c'est la démarche des fondateurs et c'est leur choix. Certaines fondations sont spécialisées, par exemple, dans la recherche biologique, dans la recherche médicale, plusieurs prix dans la recherche cardiovasculaire, etc. Dans d'autres cas, les fondations sont si importantes qu'elles ont une action assez large avec divers modes d'intervention et à la fois, il y a presque toujours la recherche et aussi l'encouragement à la création artistique, à l'entretien du patrimoine architectural, et puis de multiples interventions dans le domaine humanitaire. On appelle humanitaire largement entendu tout ce qui tend à améliorer la situation des moins favorisés.
Et l'environnement, est-ce un domaine qui est soutenu par les fondations ?
Parfaitement, avec certains domaines privilégiés, la biodiversité et puis l'eau.
Et l'eau, oui.
L'eau, les Français savent maintenant combien ils sont privilégiés avec un système hydrographique merveilleux. La France est un paradis pour cela. Et évidemment, dans d'autres parties du monde, ce n'est pas du tout le cas. Et plusieurs fondations très importantes développent des actions dans les régions défavorisées, le Sahel, plusieurs régions d'Afrique. Oui, c'est un domaine important pour les fondations.
Monsieur le chancelier, pouvons-nous passer un petit peu en revue, un peu plus en détail, ces fondations? Justement, la fondation Christophe et Rodolphe Mérieux, dont vous avez parlé, quelle est la nature de son grand prix? Qu'est-ce qu'elle récompense? Qu'est-ce qu'elle décerne comme action? Qu'est-ce qu'elle encourage?
Alors, la fondation Mérieux a une action très large, mais qui est plutôt centrée sur la recherche biomédicale, et en particulier la biologie. Et elle décerne un très grand prix qui est attribué cette année à un personnage emblématique qui est François Nosten. C'est à la fois un chercheur français qui a fait ses études en France, à Rouen, à Paris, un grand chercheur, qui est professeur à Oxford et qui développe son activité de chercheur, mais aussi d'homme de terrain, de Médecins sans frontières sur le terrain, à un endroit qui s'appelle Soh Klo, en Thaïlande. Et la plus grande partie de son activité, c'est de diriger la Soh Klo Malaria Research Unit en Thaïlande. Et donc, c'est à la fois un très grand médecin, engagé dans Médecins sans frontières, un très grand chercheur et un homme très généreux.
L'autre fondation, c'est la fondation, donc vous l'avez dit, Simone et Chino del Duca. C'est une fondation qui, elle, distribue deux grands prix de 300 000 euros chacun.
Alors,
qui va être lauréat cette année de cette
Dans la tradition de la fondation del Duca, il y a ce que Simone del Duca avait appelé le grand prix mondial. C'est un prix culturel.
International, donc.
International, qui est décerné par un jury présidé par Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, et qui comprend plusieurs membres de l'Académie française, mais pas uniquement, un ambassadeur. Et alors cette année, le Grand Prix est décerné à Mario Vargas Llosa, grand écrivain péruvien, qui a déjà eu évidemment des récompenses. Le Grand Prix mondial des Ducas a un caractère un peu particulier parmi les prix des fondations et ne répond pas à ce que je disais tout à l'heure d'un prix encourageant des projets, des tentatives neuves. Mario Vargas Llosa est un écrivain très reconnu, mais son œuvre est encore en devenir. Il est à la fois très enraciné dans son origine péruvienne,
le Pérou,
et
oui,
d'Amérique latine, parfaitement intégré à la culture européenne, ce qu'il revendique, et la culture européenne largement entendue, c'est-à-dire l'Espagne, mais aussi la culture de langue anglaise et la Grande-Bretagne en particulier, et la France, car c'est un grand francophone parfait et francophile qui passe chaque année à Paris et a vécu à Paris, et qui proclame volontiers que son ouverture à la littérature, à la création littéraire, a été encouragée, peut-être même déclenchée par la connaissance qu'il a très profonde de la littérature française.
Dont Victor Hugo, je crois.
Et dont Victor Hugo, mais dont Alexandre Dumas, dont Flaubert, dont... ces références sont très nombreuses. Et alors c'est lui qui le dit, et qui va le dire ce soir... On disait qu'il vaut mieux se tromper avec Sartre que d'avoir raison avec Raymond Aron. Eh bien, je me suis trompé avec Sartre, en effet, pendant un certain temps, et maintenant j'ai cessé de me tromper avec Sartre.
Bien, ce cas de Sartre sera ainsi réglé. Monsieur le chancelier, l'autre prix d'Elvica est plus scientifique.
C'est un prix scientifique, oui, très largement ouvert, mais plutôt dans le domaine de la biologie. Et il est décerné cette année à un chercheur très original, qui est une référence, elle aussi, unique au monde. Il dirige un laboratoire qui n'a pas d'équivalent dans le monde. C'est le docteur Janvier, Philippe Janvier, qui est directeur de recherche au CNRS et qui poursuit ses recherches dans cet endroit merveilleux qu'est le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et l'objet de ses recherches, c'est de découvrir comment a été créé le cerveau dans les vertébrés primaires, les premiers vertébrés, il y a des millions d'années. Et la naissance du cerveau s'observe chez les poissons fossiles, minuscules, microscopiques, qui, à partir d'un certain moment, ont eu un cartilage qui se durcissait et qui est devenu la boîte crânienne.
Vous voulez dire que nous sommes tous un peu poissons ?
Alors, il a des collections de milliers de poissons fossiles, car on ne les trouve que là, mais pas sur les poissons fossiles. Et dans les poissons fossiles, il étudie l'apparition du cerveau. Il en fait des modèles en trois dimensions, des modèles virtuels, n'est-ce pas, par l'informatique. Et il jalonne un certain nombre de pas de la très ancienne évolution, c'est-à-dire l'apparition des vertébrés. C'est tout à fait fascinant et c'est unique au monde.
Je vois en effet que cela vous fascine. Évoquons, si vous le voulez bien maintenant, la fondation Le Foulon de la Lande. C'est également un prix scientifique ?
Grande fondation scientifique, grand prix scientifique, qui est décerné par un jury de savants, présidé par le professeur Carpentier, professeur de médecine, membre de l'Académie des sciences. Et le prix est décerné cette année au professeur Mario Di Francesco. Lui aussi une figure. Il dirige un laboratoire à l'université de Milan. Et c'est le laboratoire de physiologie moléculaire dans le département des sciences biomoléculaires et de biotechnologie de l'université de Milan. Alors, c'est un type de chercheur qui travaille avec les plus hautes techniques de l'informatique et de la modélisation
sans doute,
de l'imagerie scientifique. Et grâce à l'application de modèles mathématiques et scientifiques, il travaille sur la régulation du rythme cardiaque. Et il a fait faire des progrès très importants à cet appareil qui est très répandu, que beaucoup de gens connaissent, qui est le pacemaker. Eh bien, le professeur Di Francesco est un des grands chercheurs dans ce domaine de la régulation cardiaque.
Autre fondation, nous en sommes maintenant, je crois, à la fondation Énergie, donc qui, elle, récompense, je crois, deux femmes cette année.
Voilà, Madame Baron van Everkooren et Madame Catherine Lubetzky. Elles sont toutes les deux, travaillent à l'INSERM. Ce sont deux chercheurs dans le domaine de la biologie et de la médecine. L'une est chercheure à l'INSERM, laboratoire à la Pitié-Salpêtrière, et l'autre est aussi chercheur à l'INSERM, mais à l'université Pierre et Marie Curie. Alors, elles ont une recherche extrêmement importante et utile sur la sclérose en plaques.
Oui.
Cette maladie
dégénérative
terrible qui s'attaque à des gens qui ne sont pas âgés et qui transforme leur existence en douloureuse suite de dégénérescence. Et donc, les deux font des recherches sur l'apparition et le développement de la maladie de la sclérose en plaques.
Et sans doute, cette fondation va les aider
à
pouvoir
justement avancer dans
cette recherche.
Absolument, est tout à fait reconnue comme leur accordant ce qu'elles attendaient toutes les deux pour faire progresser leur recherche.
Et la dernière fondation que nous pouvons évoquer, la fondation Louis D, qui donc remet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, deux grands prix.
Alors, un grand prix scientifique chaque année. Il est décerné sur un thème fixé à l'avance par le conseil scientifique de la fondation. Pour 2008, le thème était « Informatique et systèmes complexes ». Immédiatement, on pénètre dans un univers à peine compréhensible, mais tout à fait passionnant, et qui touche à toutes les disciplines de recherche. Et alors, le lauréat est M. Yves Fréniac, directeur de recherche au CNRS, à Gif-sur-Yvette, qui mène des recherches extrêmement abstraites, extrêmement intéressantes, sur comment fonctionne et comment s'adapte à chaque instant nos cortex sensoriels dans le cerveau en fonction de tout ce que l'environnement, c'est-à-dire l'entourage, peut apporter simulation au cerveau.
Donc réaction cérébrale.
Voilà, la réaction cérébrale, ce sont des recherches extrêmement importantes car il en découle énormément d'enseignements pour les soins et dans toutes les maladies d'ailleurs, pas uniquement dans les maladies du cerveau. Et aussi, il en résulte des connaissances que l'on ne soupçonnait pas sur ce que j'appellerais, mais d'un terme qui est le mien et qui n'est pas bon, la géographie du cerveau, c'est-à-dire où sont les choses, comment est-ce que ça se passe, la mémoire, l'imagination,
les
sentiments. Voilà. Alors, le docteur Frégnac est un grand spécialiste de ces questions.
Alors, l'autre grand prix culturel de la Fondation Louis D, il est culturel et qui récompense-t-il ou qui encourage-t-il cette année?
Alors, cette année, en 2008, c'est un grand prix culturel décerné par un jury présidé par Hélène Carrère-Dancos, que nous retrouvons, et qui se consacre chaque année à des organisations internationales qui œuvrent pour la présence et le rayonnement de la langue française dans le monde. Et alors cette année, il est très heureux que ce grand prix soit décerné à l'Université française d'Égypte. Il a été créé il y a quelques années, inauguré par le précédent président de la République, Jacques Chirac, en, je crois, 2004. Une université française au Caire, qui est une université très importante, privée.
Et qui va se développer, acquérir de nouvelles facultés.
Dans le domaine de la gestion, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la culture, des lettres aussi, mais surtout gestion, économie, technologie. Et elle acquiert petit à petit des départements nouveaux. C'est une université qui est présidée par un professeur égyptien, vice-présidée par un chef d'entreprise français, et les entreprises françaises concourent puissamment au financement de cette université qui est évidemment la place de la langue française dans l'enseignement supérieur en Égypte, au Caire, dans ce pays si important, au carrefour de tant de courants, de mouvements. Et puis, il y a une tradition de la présence des ingénieurs français en Égypte, très forte au XIXe siècle. Et donc, c'est dans la poursuite de cette tradition que cette université est créée. Il faut dire qu'auparavant, il existait, à ce niveau d'enseignement supérieur, il n'existait qu'une université américaine en Égypte. Et donc, il est heureux que la France crée une grande université de haut niveau au Caire pour rayonner sur l'Égypte et sur cette partie du monde, avec l'encouragement très précieux de la Fondation Louis D qui lui décerne son grand prix cette année.
On voit en effet que certaines fondations investissent dans un avenir pour un pays, pour en même temps la langue française. Monsieur le chancelier, cet après-midi, vous allez donc présenter tous ces grands prix. Est-ce que vous allez parler d'un nouveau visage du mécénat ou est-ce finalement un retour de ce que vous avez appelé tout à l'heure la philanthropie?
Alors, les deux, comme vous pouvez l'imaginer, l'intervention que je vais faire sous la coupole est intitulé « Le retour de la philanthropie ». C'est une vieille idée, bien entendu, qui connaît un regain de faveur puissant maintenant, au point que, peu importe son nom, le mécénat, le don, la générosité, la philanthropie, est devenue une sorte de branche d'activité reconnue en tant que telle, importante. Ce n'est pas simplement quelqu'un fait un don. Non, c'est la philanthropie, le mécénat, est une branche d'activité et qui se constitue en termes économiques très importants, si bien que l'on entend parler, par exemple, de la rentabilité du don, le retour sur investissement des
démarches. Un langage économique.
Un langage parfaitement économique, extrêmement efficace, et qui est, j'aurais voulu vous citer, il y a des chercheurs qui établissent une nouvelle discipline, des chercheurs en économie, qui s'intéressent à cette activité-là. Et non seulement cela, mais il s'est même créé un syndicat professionnel de cette activité, le syndicat de la générosité. Et il s'appelle France Générosité. N'est-ce pas magnifique?
C'est magnifique. Monsieur le chancelier, je vous remercie infiniment d'avoir accordé ce moment pour Canal Académie, où nos auditeurs pourront profiter aussi du meilleur moment de cette cérémonie sous la coupole que vous allez présider cet après-midi. Merci infiniment.
Merci à vous.